Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. C'était Nazir, page 57, Daf Nun Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Nous avons vu jusqu'à présent dans la Mishnah que Rabbi Akiva a voulu tenir un raisonnement a fortiori et apprendre de là que si un Nazir touche ou porte un quart de loug de sang, que celui-ci, qu'il devienne impur et que cela annule sa naziroute. En disant comme suit, si déjà concernant un os de la taille d'un grain d'orge qui ne transmet pas d'impureté si ce morceau se trouve sous le même toit que la personne, quand même, si le nazir le touche ou le porte, il deviendra impur et il annulera sa naziroute. Alors concernant le quart de loug de sang qui lui transmet l'impureté, si ce quart de loug de sang se trouve sous le même toit que la personne en question, même si le nazir n'annule pas sa naziroute pour cela, mais au moins s'il touche ou porte ce quart de loug de sang, il devrait devenir impur et annuler sa naziroute. On lui a répondu que, puisqu'il s'agit ici d'une halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu à Mont Sinaï, on ne peut pas appliquer le raisonnement a fortiori. La Gemara demande, on s'est posé la question suivante. Où est cette halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï? Est-ce que etzem kesora halakha, est-ce que le fait qu'un nazir annule sa naziroute en touchant ou en portant un morceau d'os de la taille d'un grain d'orge, est-ce que c'est cela la halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï? Urvi dam kalvachomer. Et on voulait tirer de là que si le nazir touche ou porte un quart de loug de sang par un raisonnement a fortiori, ven danim kalvachomer me halakha. On ne peut pas appliquer de raisonnement et déduire quelque chose d'une halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, parce que c'est un cas spécial qui ne suit pas la logique. Odilma, ou bien ce que nous dirons, kervi dam halakha, c'est le fait qu'un quart de loug de sang qui transmette l'impureté à la personne qui se trouve sous le même toit, c'est une halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Parce que le fait que le sang du cadavre transmette l'impureté, nous l'apprenons du pasouk concernant l'interdiction que le Kohen Gadol a de se rendre impur pour les membres de sa famille. Le pasouk dit « Alkol nafshot met lo yavo » donc le pasouk dit dans Vaikra Chafalef « Pour toute âme de mort, il ne viendra pas, il ne pénétrera pas donc sous le même toit. » Quand la Torah emploie le terme de « nefesh », les chachamim ont compris qu'il s'agit de quelque chose dont la vie de l'homme dépend. Il s'agit donc de sang. Nous avons dit plus haut d'Af Lamedchet que la Gemara dans Shabbat d'Af Lamedal Famudbet dit que les chachamim ont évalué que le minimum de sang nécessaire pour la vie d'un homme est un quart de loug. Finalement, on pourrait dire, donc, puisque le pasouk s'exprime au pluriel, on pourrait dire que pour devenir impur, il faut être en contact avec deux fois la quantité nécessaire pour la vie d'un homme, c'est-à-dire un demi-loug. Si finalement nous dirons que même avec un quart de loug de sang, une personne devient impure, c'est donc, on ne peut pas le tirer du pasouk, c'est une halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Et on voulait tirer à partir d'un raisonnement a fortiori, à partir du morceau d'os de la taille d'un grain d'orge, que de la même manière que nous avons vu à propos du morceau d'os de la taille d'un grain d'orge, le nazir annulera sa naziroute s'il le touche ou le porte. On voulait dire la même chose pour le nazir qui touche un quart de loug de sang ou le porte. Puisque la gravité de l'impureté du sang, c'est en fait une halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Il peut s'agir donc d'un cas spécial. Ve'endanim kalvachomer me'halakha. On ne pourra donc pas appliquer un raisonnement a fortiori pour quelque chose dont la gravité a été apprise par une loi qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. En d'autres termes, donc la question est, où est-ce qu'elle est cette halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï? Est-ce que c'est concernant le morceau d'os de la taille d'un grain d'orge qui rend impur le nazir, ou bien concernant le quart de loug de sang qui rend impur la personne qui se trouve sous le même toit? La Gemara répond, Tashma, viens écouter une preuve d'une braïta. La braïta dit, Etzem kisora halakha. Le fait qu'un nazir se rase et annule sa naziroute s'il touche ou porte un morceau d'os de la taille d'un grain d'orge, c'est une loi qui a été enseignée à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, Urvid dam kalvachomer. Et on veut apprendre par un raisonnement a fortiori que s'il porte ou il touche un quart de loug de sang aussi, il annule sa naziroute. Et on n'applique pas un raisonnement a fortiori quand la base de ce raisonnement est en fait une loi qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Donc nous voyons ici clairement que c'est le fait que le nazir annule sa nézirut en touchant ou en portant un morceau d'os de la taille d'un grain d'orge, qui est une halakha qui a été transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Hadran alar kohen gadol, nous avons fini donc le 7e perek. Nouvelle Mishnah, au début du 8e perek. Shnei nezirim, s'il y avait deux nazirs, shamar lahem echad, qu'une personne qui les a rencontrés leur a dit, raiti echad mikem shenitma, j'ai vu que l'un de vous est devenu impur. Veini odea ezemikem, et je ne sais pas lequel des deux, de vous deux, est devenu impur. Megalchim, ils devront tous les deux se raser, ou mevin korban tuma ve korban tara, et ils apporteront conjointement un korban du nazir tamé et le korban du nazir pur, c'est-à-dire du nazir à l'issue de la période de Nézirut. Évidemment, pour ce faire, il faudra qu'ils attendent que leur période de Nézirut soit terminée. Véomer, et l'un de deux dira, en fait, comme le Tosafot précise, on n'a pas besoin de le dire, mais en fait, le Kohen peut offrir ses korbanot pour le nom de celui pour lequel c'est destiné. En tout cas, donc, l'un des deux dira, Im anihu tamé, si c'est moi qui est devenu impur, korban tuma sheli, alors le korban du nazir impur sera le mien, et il sera offert pour mon compte, le korban tahara shelcha, et le korban du nazir pur, donc, à l'issue de la période de Nézirut, est le tien. Et si c'est moi qui étais pur et toi qui es devenu impur, korban tahara sheli, le korban du nazir pur, c'est le mien. Et donc j'ai terminé ma période de nazirut, le korban tuma shelcha, et le korban du nazir impur, c'est le tien. Vesofrim shloshim yom, et après avoir offert ses korbanot, ils compteront encore 30 jours pour observer à nouveau une période de nazirut, ou mevin korban tahara, et ils offriront conjointement le korban du nazir pur, c'est-à-dire à l'issue de la période de nazirut. Veomer, et le premier dira, imani watame, si moi j'avais été impur, korban tuma sheli, le korban du nazir impur qui avait été offert il y a 30 jours, c'était le mien, le korban tahara shelcha, et le korban du nazir pur qui a été offert il y a 30 jours, c'était le tien, veze korban taharati, et maintenant j'offre mon korban de la nazirut pure, c'est-à-dire c'est maintenant que je termine la période de nazirut, et voici les korbanot correspondants. De im ani hu atahor, et si c'était moi qui était pur, korban tahara sheli, le korban du nazir pur qui a été offert il y a 30 jours, c'était le mien, ve korban tuma shelcha, et le korban du nazir impur, c'était le tien, veze korban taharatra, et maintenant le korban qui est offert, donc le korban du nazir pur, sera le tien. En Lagmara dit, katane shne nezirim shamar lahem, la Mishnah nous dit que deux nezirim à qui une personne aurait dit, raiti echad mikem shenitma, j'ai vu que l'un d'entre vous est devenu impur. Ve'eni yodea ezemikem, je ne sais pas lequel d'entre vous est devenu impur. La Mishnah nous dit que les deux devront offrir conjointement le korban du nazir impur. Le problème se pose ici, c'est parce que quand nous avons un doute, nous appliquons en principe le principe de Chazaka, qui veut dire que si jusqu'à présent chacune de ces deux personnes séparément était pure, il n'y a pas de raison de dire que ça a changé. Donc en cas de doute, nous dirons séparément sur chacune de ces deux personnes qu'elle est restée pure. Finalement donc, il n'y aurait pas de korban à offrir. Mais ici, on pourrait appliquer un autre principe que nous connaissons, que si nous avons un doute à savoir si une personne est devenue impure ou non, et cette personne se trouvait dans un domaine privé, il y a une loi qui nous dit qu'on n'applique pas ici le principe de Chazaka, et bien que cette personne était jusqu'à présent pure, elle sera maintenant déclarée impure. Alors, la Gemara demande là-dessus, Ve'amai, pourquoi est-ce qu'on dirait ici que ces deux personnes sont considérées comme étant impures, ou au moins l'une d'elles? Kol safek tuma be'ushot ha'yachid, me'echael finanla, d'où est-ce qu'on sait que quand nous avons un doute concernant une impureté dans un domaine privé, d'où est-ce qu'on l'apprend que nous disons que cette personne est déclarée impure? Mishota, on l'apprend de la femme soupçonnée d'adultère. En effet, comme la Gemara l'explique dans Sota, Daf Kafret Amudbet, une femme soupçonnée d'adultère, et elle s'est isolée avec une personne alors qu'elle avait été mise en garde par son mari. La Torah la déclare impure et elle est interdite à son mari. Puisque la Torah la déclare impure, nous appliquerons les mêmes lois que nous avons vues à propos de la femme soupçonnée d'adultère pour toutes les lois de l'impureté. Alors nous disons Ma sota boel venivelet, de la même manière que celles soupçonnées d'adultère finalement se sont isolées que deux personnes, la personne qui est soupçonnée d'avoir une relation avec elle et la femme elle-même aussi. Alors Af kol safek tuma birshuta yachid, alors partout où nous avons un doute concernant une impureté dans un domaine privé où il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y trouvent, nous dirons aussi que nous déclarons cette personne ou ces personnes impures. Alors, si nous voulons appliquer ce principe ici, on peut le dire que quand il y a deux personnes, aval hacha, mais ici dans le cas de notre Mishnah, shne nezirim, il y avait les deux nezirim, vehay dekai gabehon, et la personne qui se trouvait avec elle, hatlata, il y avait donc trois personnes dans cet endroit. Havele safektum abushut arabim. Alors finalement, c'est devenu un domaine public, et maintenant nous avons un doute concernant une impureté dans le domaine public. Et quand nous avons un doute concernant une impureté dans le domaine public, nous disons que ces personnes sont considérées pures. C'est-à-dire, comme le Tosfot le précise, nous appliquons ici le principe de Chazaka, puisque ces deux personnes étaient jusqu'à présent pures, nous dirons que celles-ci continuent à rester pures. Puisque ces deux personnes sont considérées comme étant pures, il n'y a pas de korban de Nazir Tamé à offrir. Il est vrai que les Chachamim ont décrété dans le cas où les deux personnes viennent poser cette question en même temps, comme la Gemara dans Ktuva Daf Kaf Zayin le dit. Alors, on ne pourra pas trancher que ces deux personnes sont pures. Mais c'est une Chumra Midrabanan, comme la Gemara l'explique là-bas dans Ktuvot. Finalement donc ici, il est vrai que ces deux nezirim devront se purifier à cause de ce doute, mais ils ne pourront pas offrir de korban, parce que offrir un korban engagerait aussi une interdiction, qui est celle d'offrir un korban qui n'en est pas un, donc c'est un animal choulin, puisqu'il n'a pas l'obligation d'offrir ce korban, et de l'offrir dans le Beit HaMikdash. La Gemara répond, Amar Rabba Barav Huna, Be'omer, il s'agit d'un cas où cette personne qui les a rencontrés leur a dit, Raiti Tumash Nizreka Benechem, j'ai vu qu'il y a quelque chose d'impur, donc un morceau par exemple d'un cadavre qui a été jeté entre vous et qui a atteint l'un de vous. En d'autres termes, il s'agit d'un cas où cette personne n'était pas auprès d'eux, elle était éloignée d'elle. Finalement, l'endroit où ces deux nezirim se trouvaient peut être encore considéré comme un domaine privé. Il est vrai, comme le précise le Tosfot, qu'on ne peut pas appliquer entièrement le principe qui dit que quand nous avons un doute concernant l'impureté dans un domaine privé, que cette personne est considérée comme étant impure, parce que si nous l'appliquons entièrement, on devrait dire que les deux nezirim sont impurs et tous les deux doivent offrir un korban de nazir impur, mais comme le précise le Tosfot, cela est impossible, parce que même en appliquant ce principe, puisque cette personne a vu que ce n'est que l'une des deux personnes qui est devenue impure, on ne pourra donc pas décréter que les deux sont impurs. Mais, comme l'explique le Maharam dans Choulin Daftet Amudbet sur le Tosfot et le Shav Shmateta dans la Shmata Aleph Perek Yudzain, le principe qui nous dit que quand nous avons un doute concernant une impureté dans un domaine privé pourra quand même être appliqué ici pour nous dire que la chazaka de pureté a disparu. Le doute persistera, c'est pourquoi ils devront, à cause de ce doute, offrir conjointement le korban du Nazir Tamé. Amar Ravashi dit là-dessus, Dekanami, on peut effectivement déduire que c'est cela le cas de notre Mishnah, qu'il s'agit que cette personne qui leur a déclaré que l'une d'elles était devenue impure, était au loin.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Nun Zayin Amud Bet. De katane ve'en yodea ezem ikem, parce que la Mishnah nous dit, et cette personne s'exprime en disant, je ne sais pas lequel d'entre vous est devenu impur. En d'autres termes, je n'ai jamais déterminé lequel des deux est devenu impur. S'il était effectivement à côté d'eux, il aurait dû voir lequel des deux est devenu impur. Maximum, il aurait peut-être oublié lequel des deux est devenu impur. Finalement, donc, s'il dit, je ne sais pas lequel des deux est devenu impur, apparemment, donc, il était au loin. Shma Mina, la Gemara dit, effectivement, c'est une bonne preuve. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Megalchim ou Mevim, ils se raseront et ils offriront conjointement le korban du nazir pur et le korban du nazir impur, puis ils attendront 30 jours et ils se raseront à nouveau et ils offriront conjointement le corban du Nazir pur. La Gemara demande, va Amai, pourquoi est-ce qu'ils se raseront à nouveau? Dilma lavt meiminun, peut-être qu'ils ne sont pas impurs. Et en fait, comme nous l'avons expliqué, l'une d'elles, effectivement, n'était pas impure. Veka vida kafa, celui qui n'était pas devenu impur, transgresse l'interdiction de se raser les tempes, donc les péotes, qu'on appelle l'interdiction de Akafa, parce que la Torah interdit de raser les cheveux de manière à égaliser le front et l'arrière des oreilles. Puisque le Nazir doit se raser entièrement la tête, il doit aussi raser cette région, il a donc transgressé cette interdiction. Amar Shmuel, Shmuel répond, Be'isha ve'katan. Il s'agit d'un cas où ces deux Nazirim étaient ou des femmes ou des mineurs. Ils n'ont pas donc l'interdiction de se raser cette région de la tête. La Gemara demande, Velukma Begadol, pourquoi est-ce que Shmuel a dit que le cas de la Mishnah, il s'agit de femmes ou de mineurs? Il n'avait qu'à dire qu'il s'agit même d'un majeur. Ve'akafat kolarosh, loshma akafa. Et quand on rase toute la tête à la fois, on peut dire qu'on n'a pas transgressé cette interdiction d'égaliser le front avec l'arrière de ses cheveux. En effet, on pourrait dire que le pasouk n'interdit que de raser la région de la tempe de manière à ce que sa chevelure soit arrondie. Mais s'il rase entièrement la tête, finalement, sa chevelure n'a pas été arrondie. La Gemara conclut, « Midelo mokim la'achi » puisqu'il n'a pas interprété la Mishnah de cette manière, qu'il s'agit même d'un majeur, mais qu'il n'y a pas d'interdiction s'il se rase entièrement la tête, « Shma mina kasavar Shmuel » on peut dire de là que l'avis de Shmuel est, que Shmuel pense, « Hakafat kolarosh shma akafa » que cette interdiction de raser la région de la tempe existe même s'il se rase entièrement la tête. Marzutra matne la lehashmata de Shmuel asefa. Marzutra a rapporté cet enseignement de Shmuel sur la Mishnah suivante, Dafnuntet Amudbet. La Mishnah dit, on l'a déjà d'ailleurs expliqué plus haut, Dafnunvav, Nazir Shehaya Tame Besafek, un Nazir sur lequel il y aurait un doute s'il est devenu impur par un mort ou non, ou Mukhlad Besafek, et en plus il y avait un doute s'il a été déclaré lépreux ou non. Ochel Bekodashim Lachar Shishim Yom, il pourra consommer des corbanotes au bout de 60 jours. C'est-à-dire tant qu'il ne s'est pas purifié de cette lèpre ou qu'il n'a pas levé le doute à ce sujet, il ne pourra pas consommer de korbanot. Ou megaleach arbatiglachot, et il devra se raser à 4 reprises. Là-dessus, la question peut se poser, vehaka vidakafa, puisque finalement, ce n'est qu'un doute, s'il est devenu lépreux ou non, ou bien s'il était nazir impur ou non, s'il se rase alors qu'il n'a pas besoin de le faire, il transgresse cette interdiction de se raser la région de la tempe. Amar Shmuel, là-dessus, Shmuel a répondu, Beisha Vekatan. Dans la Mishnah, il s'agit d'un cas d'une femme ou d'un mineur qui n'ont pas cette interdiction. Et de là, donc, nous pouvons déduire que Shmuel pense que même s'il se rase entièrement la tête, cette interdiction de se raser la région de la tempe existe aussi. La Gemara continue. Quand le Passouk dit dans Vaikraoutet concernant l'interdiction de se raser la tempe, le pasouk dit, Lotakifu pead roshrem, vous n'arrondirez pas les coins de votre tête, c'est-à-dire votre chevelure. Le pasouk veut dire qu'on n'aura pas le droit d'égaliser le front avec l'arrière des oreilles en se rasant cette région. Logiquement, et l'interprétation simple de ce pasouk est que la Torah s'adresse à la personne qui se coiffe, qu'elle ne se coiffe pas elle-même ou qu'elle ne se fasse pas coiffer en ayant la chevelure arrondie. Mais puisque la Torah parle d'une manière active, on peut comprendre aussi que la Torah parle non seulement à la personne qui se coiffe, mais aussi s'adresse au coiffeur. Pourquoi donc, Amar Rav Huna, Hamakif et Akatan, celui qui coiffe un mineur en arrondissant sa chevelure, donc en rasant la région des tempes, Hare ou Chayav, il s'est rendu coupable de cette interdiction de raser les cheveux de la tempe. Amar le Rav Ada bar Ahava. Rav Ada bar Ahava a dit le Rav Huna, Vedidach man megaleach leon. Alors qu'est-ce qui rase les cheveux de la tempe de tes enfants? Amar le Rav Huna lui a répondu, Chova. ma femme qui s'appelle Chova. Elle, comme nous l'expliquerons par la suite, n'a pas cette interdiction. C'est pourquoi elle se permet de raser mes enfants. Alors, Ravada Barava lui a répondu, si tu penses qu'un majeur n'a pas le droit de raser les cheveux de la tempe d'un mineur, une femme aussi n'a pas le droit de le faire. Et si ta femme le fait, tekabrinun chovra le bene, que chova ta femme enterre ses enfants. La Gemara conclut en disant, kulhu shene de Ravada Barava, loikayem lezara le ravuna. Tout le temps que Ravada Barava était en vie, Ravuna n'a pas eu des enfants viables. C'est-à-dire que ses enfants sont morts en bas âge. Et cela à cause de cette malédiction qu'a dit Ravada Barava par inadvertance. La Gemara demande, Mirde Tarvayhu Svira Hakafat Kolarosh Ma Hakafa. Puisque tous les deux, soit Ravuna, soit Ravada Barava, pensent tous les deux donc que même en se rasant entièrement la tête, on transgresse cette interdiction d'arrondir la chevelure et d'égaliser le front avec l'arrière des oreilles, Bemaika Mufalge. Alors en quoi discutent-ils? Quel est leur sujet de discussion? Parce que nous voyons que Ravuna interdit à un homme majeur de raser un mineur, alors qu'il permet à une femme, Ravada Barava, comme nous le verrons par la suite, permet soit à l'homme, soit à la femme de raser un mineur. L'Agma répond, Ravuna Savar, Lotakifu Pead Roshrem, Velotashrit et Pead Zekanecha. Le pasouk dans Vaikra Utet, dans ce paragraphe donc qui parle de cette interdiction, dit, vous n'arrondirez pas les coins de votre tête et tu ne détruiras pas les coins de ta barbe. Alors, le pasouk juxtapose l'interdiction de se raser les cheveux de la tempe et l'interdiction de se raser les coins de la barbe. Kol sheyeshlo hashrata, tout celui qui a l'interdiction de se raser les coins de la barbe, yeshlo akafa, il est aussi concerné par cette interdiction de se raser les cheveux de la tempe. Behanenashe. Maintenant, concernant les femmes, ho'il vilitneu be'ashrata, puisqu'ils n'ont pas cette interdiction de se raser les coins de la barbe, puisqu'une femme en général n'a pas de barbe, la Torah donc ne s'adresse pas aux femmes. Litnehu nami be'akafa, elles n'ont aussi pas cette interdiction de raser les cheveux de la tempe. Par conséquent donc, même si la Torah, quand elle s'adresse au coiffeur, en interdisant au coiffeur de raser les cheveux de la tempe, même s'il s'agit d'un mineur qui n'a pas cette interdiction, la Torah ne s'adresse pas aux femmes, parce que Ravuna l'apprend de cette juxtaposition. Nous noterons cependant, comme le précise le Tosfot, que une personne, donc un coiffeur, homme majeur, n'aura pas l'interdiction de raser les cheveux de la tempe d'un goy, parce que le pasouk dit « Lotakifu pa droshrem » de votre tête, il s'agit donc des juifs. Par contre, pour les goyims qui n'ont pas cette interdiction, même un majeur n'aura pas aussi cette interdiction. « Ravada barava savar » Ravada barava pense « Echad hamakiv vechad hanikav vemashma » Le pasouk s'adresse soit à celui au coiffé, soit au coiffeur. De itkash makif nenikaf, puisque c'est par le même terme qu'on l'apprend de l'otakifu, alors nous comprenons que la Torah a juxtaposé le coiffeur au coiffé. Nous pouvons donc déduire de là, kol hecha denikaf mechayev, makif nami mechayev. Là où le coiffé a cette interdiction de se raser les cheveux de la tempe, le coiffeur aussi aura cette interdiction. Par conséquent donc, concernant un majeur, qui a l'interdiction de se raser les cheveux de la tempe, même une femme qui le rase aura cette interdiction. Par contre, selon l'avis de Ravuna, une femme qui raserait un majeur, même si ce majeur a transgressé l'interdiction de se faire raser les cheveux de la tempe, elle n'a pas transgressé l'interdiction. Ravuna a parlé d'un mineur, parce que ce n'est que le mineur qui se laissera coiffer. Par contre, donc, Ravada Barava, qui apprend de cette juxtaposition entre le coiffeur et le coiffé, il apprend de là que quand le coiffé a l'interdiction de se raser les cheveux de la tempe, celui qui le coiffe aussi a cette interdiction. Même une femme donc qui coiffe un majeur aura transgressé cette interdiction. Vehai katan, mais ce mineur, hoil vehu gufe, lav baron shimhu de Mikhaïev, puisque ce mineur donc n'est pas condamnable, puisqu'il est encore mineur, on ne peut pas dire donc qu'il est concerné par cette interdiction. Quand il est mineur, makif namilo mechayev, alors le coiffeur, donc qui coiffe un mineur, n'a pas aussi cette interdiction. Cependant, comme nous précise le Tosfot, on ne pourra pas appliquer cette juxtaposition à l'envers et de dire que quand le coiffeur n'est pas concerné par l'interdiction, le coiffé n'est pas concerné par l'interdiction, parce que finalement le sens primaire de ce pasouk est de s'adresser au coiffé. Et c'est à cause de la forme de l'expression du pasouk que nous avons déduit que le pasouk s'adresse aussi au coiffeur. Nous dirons donc que la Torah a voulu juxtaposer le coiffeur au coiffé et non pas le contraire. D'ailleurs, c'est en suivant ce raisonnement que Rav Adaba Rava discute avec Rav Huna et n'applique pas la juxtaposition entre l'interdiction de se raser les cheveux de la tempe et l'interdiction de se raser la barbe concernant le coiffeur. Par conséquent, la femme aussi aura l'interdiction de raser un majeur. Par contre, Rav Adaba Rava est d'accord que cette juxtaposition entre l'interdiction de se raser les cheveux de la tempe et de se raser les coins de la barbe existe concernant le coiffé. Par conséquent, donc, concernant la femme, puisqu'elle n'a pas l'interdiction, elle n'est pas concernée donc par l'interdiction de se raser les coins de la barbe, elle n'est aussi pas concernée par l'interdiction de se raser les cheveux de la tempe. Nous avons fini ici le shiur de Nazir Daf Nun Zayin. Nous commençons le shiur de Nazir Daf Nun Chet. Nous commençons Daf Nun Zayin Amud Bet à la troisième ligne du bas de la page. La Torah nous dit dans Vaikra Yutet, Lotakifu Pead Roshrem, vous n'arrondirez pas les coins de votre tête. Ce que la Torah veut dire, comme nous l'avons expliqué dans le daf précédent, il ne faudra pas raser les cheveux de manière à arrondir la chevelure. En effet, dans la région de la tempe, les cheveux dépassent de la ligne qui relierait la ligne du front avec l'arrière des oreilles. La question se pose, est-ce que en rasant toute la tête, est-ce qu'on transgresse aussi cette interdiction? Nous avons vu dans le daf précédent que l'avis de Shmuel, de Rav Huna et de Rav Adaba Rava était que même en rasant toute la tête, on transgressait cette interdiction. La Gemara dit Lema ha kafat kol harosh tanaihi. Peut-être qu'en effet, à savoir si on transgresse cette interdiction en rasant toute la tête, est-ce que c'est une machloket tanaïm, de Tanou Rabanan, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Rosho, quand le pasouk dit à propos du lépreux qui doit se raser, la Torah dit que le lépreux se rasera tout son corps. Puis la Torah précise qu'il se rasera notamment sa tête. On peut se poser la question, à savoir, pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de préciser que le lépreux devra se raser sa tête, puisque la Torah avait déjà dit qu'il devra se raser entièrement tout le corps. Alors, Rosho Matanmud Lomar, pourquoi est-ce que le pasouk nous précise que le lépreux se rasera la tête? Alors là, Braïta répond, les fiches, Neymar Lotakifu Padroshrem, puisque le pasouk dit dans Vaikra Utet, vous ne raserez pas les coins de votre tête, donc la région de la tempe.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.